c'est pas de la représentation, c'est pas les trompettes de Jéricho, hein, la musique, c'est quand même qu'il y a des, justement, il y a des différences énormes. Hein. Bon, comment on vient de faire ces différences? Alors regardez, qu'est-ce qui se passe entre ça et ça? Eh bien, voyez, ici j'ai fait tourner C. Non, ici j'ai rajouté, à la hauteur de C, j'ai rajouté, et de C', j'ai rajouté deux croisements au lieu qu'il y en ait un. Ça, vous pouvez l'avoir intuitivement. Maintenant, regardez-le bien, essayez de le décrire et dites-le bien. Parce qu'il faut le raconter à quelqu'un. Si vous cherchez à le raconter à quelqu'un, même à un interlocuteur imaginaire, vous dites qu'est-ce qu'on a fait à celui-là pour faire ça? Ben, la manière la plus simple de dire, c'est que la relation de celui-là et de celui-là, des deux ronds, là, je parle de celui-là et celui-là, c'est les ronds. Je ne vais pas vous les appeler R et SI pour faire malin. Hein, je vais vous dire, j'ai tout compris, moi, R et SI. Donc non, c'est R et SI, ça relève de ça. Seulement, il faut voir qu'est-ce qu'on fait avec ça, pour pouvoir lire R et SI correctement. Bon, vous voyez, vous en avez deux, là, un et un autre. Hein, et bien, c'est comme ces deux-là, ils se croisent en A, ils se croisent en A'. Ils se croisent en A. Et si vous suivez le fil, bêtement, vous verrez qu'il se croise en A'. Et qu'il y a un croisement en A, un croisement en A'. On n'a rien changé à ça. Pareil pour B et B'. C'est juste entre C et C', on a rajouté un tortillon de plus. Mais on a pas rajouté un croisement, mais deux. Vous comprenez pourquoi on en a rajouté deux? Si on veut que ce soit borroméen. Ben, je vous montre... Ah non, c'est avec deux, on pourrait aussi remarquer. Oui, je suis en train de là, commettre une erreur. Regardez, s'il y en a qu'un, c'est quelque chose qui est comme ça. S'il y en a un de chaque côté, vous voyez, il y en a un de chaque côté. Quand il y en a deux, ça va faire quelque chose qui est comme ça. Mais regardez, comme c'est pas alterné, parce que j'ai en retiré celui qui est au milieu, hein, je l'ai fait tenir. Regardez, ça ne tient pas non plus. Donc on pourrait faire un borroméen avec en faisant passer un truc là-dedans qui serait le troisième rond pour faire tenir ces deux-là comme le borroméen, le troisième rond il passe là-dedans pour faire tenir ces deux-là. Hein? Je vous cache le truc, c'est, regardez, vous voyez, quand il n'y a qu'un seul croisement ici et là, on fait le borroméen en faisant passer quelque chose d'alterné. Hein? Ici ça passe en dessous, donc on fait passer ça au-dessus. Voilà, on fait ça comme ça, ici on fait passer au-dessus. Et là, on fait passer au-dessus aussi, là, on fait passer en dessous. Ça va faire du borroméen. Vous ne pouvez pas faire ça d'une manière alternée ici, parce que si vous faites d'une manière alternée, vous allez vous planter, vous allez faire un enlacement. Regardez, si je passe au-dessus ici, si je passe en dessous là, au-dessus ici, et en dessous là, et bien là, je suis enlacé. La droite infinie que j'ai rajoutée, elle est enlacée avec les deux ronds qui se dénouaient tout à l'heure. Elle passe dedans. Je vous le prouve, regardez, le plus simple, c'est de prendre celui-là. Vous voyez, si elle passe comme ça, la droite, elle traverse le trou, elle traverse le trou. Donc je vais rajouter, si je... Bon, je peux faire un borroméen avec ça, mais ce borroméen que je fais avec ça, si je le fais d'une manière alternée, de manière à ce qu'il n'y ait pas cet effet d'enlacement, vous voyez, l'effet d'enlacement, c'est que le rond qui est là, il est traversé par la droite infinie. Si je veux éviter ça, si j'alterne bien, eh ben ça va se réduire à ça. Ça ne va pas tenir. Mais si je fais un cran de plus, si je fais trois croisements, comme ça, voilà. Là, je rétablis la possibilité de l'alternance pour faire passer le troisième. Enfin, ça veut dire qu'il faut réfléchir à ces objets, mais qu'il faut se la raconter. Ou il faut la raconter à quelqu'un, vous comprenez. C'est à ça que ça sert l'interlocuteur imaginaire de Freud dans la ligne analyse, et surtout l'analyse, parce qu'il n'y a pas d'auto-analyse, parce qu'on ne peut pas aboutir à un transfert, c'est-à-dire à un moment où justement on donne sa langue au chat, on ne peut plus parler, si on ne se la raconte pas, mais on se la raconte à quelqu'un. Et comme si on se la raconte à quelqu'un qui n'est pas là, on se la raconte plutôt à soi. On peut se raconter n'importe quelle histoire. Donc c'est quand même intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas en absence et en effigie, comme dit Freud. Pour arriver à quoi? À voir qu'on peut se la raconter. Il faut se la raconter. Il faut se raconter des histoires. Mais qu'en plus, regardez, si je le fais passer ici en dessous, ici au-dessus, ici au-dessus, ici en dessous, et ici au-dessus, vous voyez que le rond peut vous mettre des couleurs pour que vous lisiez bien toutes les nuances du machin. Regardez. Et le rond qui rencontre là, mon fil. Le rond qui rencontre là, regardez. Il le rencontre là. Alors que dans le cas de 2, le rond qui rencontre là, il le rencontre là. Parce que c'est pair. Et qu'est-ce que c'est ici ? Ben ici, c'est emmerdant, parce que là, il est passé au-dessus du rouge, et là, il passe en dessous du rouge, le blanc. Alors que là, il passe en dessous du rouge et en dessous du rouge, donc il n'est pas enlacé.
Oui. Donc sur le troisième croisement, là,
ici.
On a au-dessus, à droite, là vous ne passez pas dessous le blanc.
Ben, je passe dessous le blanc.
Non, dessous une deuxième fois, dessous le blanc.
Ah oui, non, mais je vous ai dit que vous pouviez faire un Borromien avec ça. Mais si vous faites un Borromien avec ça, vous allez voir qu'il se simplifie parce que ce n'est pas alterné, il se met comme ça. Il va se simplifier comme celui-là. Il va se ramener à celui-là. Parce que le coup de passer comme ça, d'espèce de maillage que je suis en train de commenter, hein, je vais appeler ça, vous voyez, ça c'est pas encore une maille, c'est pas encore du tricot, mais ça commence à devenir du tricot, puis là on voit vraiment que ça se tricote. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais hein, moi j'appelle ça tricoter. C'est un peu comme ça qu'on fait avec les baguettes. Bon. Donc je suis en train de vous commenter, eh ben, ce qui se passe entre celui-là et celui-là, c'est borroméen, parce qu'on a rajouté deux croisements ici et de là. Et vous voyez qu'on a rajouté deux croisements d'un côté, du côté du nœud trèfle. Alors si je mets la coupure ici, si je mets la coupure ici, comme dans l'autre, on a rajouté deux croisements du côté du trèfle. Donc c'est un trèfle à 5. Et au milieu, on a un Lacan à 5. Parce qu'il y a aussi deux croisements. La partie Lacan, elle doit compenser la partie trèfle pour faire un nœud borroméen. Ah, ça, c'est un truc à étudier, ça. Il faut réfléchir. Est-ce que ma formule est exacte? C'est pas sûr. Il faudrait la discuter. Mais ma proposition est de dire qu'un borroméen, c'est un composé d'un. Comme le borroméen, c'est un composé d'un trèfle, vous voyez, avec un autre trèfle, retourné comme une chaussette, c'est ce trèfle-là, c'est le trèfle coupure. Vous voyez, le trèfle coupure. Alors, ça ne va pas venir tout de suite que vous allez retrouver le discours de Freud, mais vous allez voir que si vous faites ça assez longtemps, avec quelques-uns, avec quelques autres, si vous perdez votre temps à discuter des trucs aussi cons que ça, vous allez devenir freudien. Vous allez voir, vous allez même devenir lacanien. C'est pas la peine d'être un grand savant, hein. C'est d'être suffisamment têtu pour faire des trucs aussi cons qui va faire rire tout le monde. Vous voyez, moi... Je suis obligé de m'en faire le bout du monde, parce que j'ai quand même, il n'y a rien de plus noble, hein, mais étudier les nœuds après Lacan à Paris en 1990-2000, quand même, moi je suis assez fier de mériter le prix Nobel, comme Kogel. Lacan il dit que Kogel mérite le prix Nobel. C'est quand même hyper snob. Les gens disent, mais c'est un faiseur ce mec. Miller, voilà ce qu'il pense de moi. Je suis un faiseur. Bon. Ben oui, sûrement, si on veut s'en tenir à la façade, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Ça paraît même un peu un crétin, quand même, un type qui s'occupe de faire des trucs comme ça depuis 30 ans. C'est un snob, quoi. Il y a des choses plus sérieuses, quand même. Ben, je vous demande, est-ce qu'il y a vraiment des choses plus sérieuses? Parce que si vous faites ça suffisamment longtemps, vous allez voir, ça vient. Vous n'allez plus lire Freud, vous n'allez plus lire Lacan d'abord et Freud de la même manière. Ça fait des trucs. Ça fait des trucs dans le corps, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce n'est même pas la représentation. Ça fait des trucs dans le corps et dans les oreilles, mais surtout, ça fait des trucs dans la lecture et dans l'écriture. Bon. Donc, je vous dis maintenant l'autre transformation. Quelle est la transformation entre ça et ça? Alors, il y a la même transformation, vous voyez. Regardez. Si vous mettez le Lacan, si vous mettez le trèfle comme un Lacan, regardez, vous avez un enlacement et un croisement. Bien, je suis d'accord, dans le trèfle, ils sont tous les trois homogènes, les trois croisements. Vous voyez, ça tourne bien, ils sont bien symétriques. Alors, il y a une symétrie de trois. Ici, ils sont bien comme ça, là, ils sont bien pareils. Et bien, les deux croisements que j'ai ajoutés à mon C et à mon C', ça, c'est la moitié d'un borroméen. Donc, vous avez deux croisements qui vont être les restes de A et B. Ça va être les restes de A' et de B', c'est exactement. Et C, pour faire le Lacan, il faut rajouter ou ici, ou là, il faut rajouter deux croisements. Vous voyez ? Le Lacan, c'est celui-là, c'est celui qui est là, regardez. C'est celui-là, il est soit comme ça, j'efface la droite infinie, Regardez, il est comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, au lieu d'avoir un croisement, ici, j'en ai trois. J'en ajoute deux. Voilà. Donc, mais j'aurais pu l'ajouter ici, au milieu. J'ai aussi un Lacan. Vous voyez, si je fais ça. En dessous, au-dessus, au-dessus, voilà, comme ça. C'est ce qui va vous permettre de comprendre en dessous, le dessus passe en dessous, voilà, hop, au-dessus, en dessous, comme ça, voilà. J'ai gardé un croisement ici, 1 et 1, ici, et j'en ai mis 3 ici. Là, ici, j'ai mis le 3 ici. Celui-là, c'est bien le Platon qui est là. Eh bien, regardez la première leçon du symptôme. Quand Lacan donne les 4 seules présentations du nœud de Lacan, il n'y a que 4 façons de présenter ce nœud de Lacan. Si on ne veut pas ajouter des croisements, hein, si on s'en tient au minimum de croisements. C'est la question que se posait Listing en 1845, en plus. Mais ça, c'est une référence, j'ai dit, pour amuser la galerie. Hein. Je pourrais m'en passer, c'est pas vraiment structural, c'est historique. Bon, enfin, je peux faire érudit aussi, comme dirait le Jean. Hein. Il dit ça, le Jean, dans ses conférences au Japon, il dit un petit morceau d'érudition. Il ne peut pas s'empêcher d'en rater. Ça compte aussi, l'érudition, de lire des tas de choses qui servent à rien, qui paraissent idiotes. Mais il n'y a pas que l'érudition. Est-ce que vous voyez que, ici, vous voyez que ce premier Lacan que Lacan montre, il montre le Lacan dans la présentation que j'ai donnée là, qu'on retrouve ici. Est-ce que tout le monde suit bien que c'est bien le même Lacan là ? Vous voyez, c'est 1, 1 et 3. Bon. Et bien là, c'est, il faut le dire comme ça, c'est 1, 3 et 1. Et c'est le même. Si vous changez la zone, si vous faites la zone extérieure, cette zone-là, vous la transformez en zone extérieure, la zone extérieure, elle est là, vous voyez. Le 3, je vais le mettre au même endroit, vous voyez. Ouais. Vous voyez, c'est quoi? C'est que l'enlacement de ces deux-là, je les mets de l'autre côté, par une bidualité. Donc, Lacan, il s'intéresse à ces conneries-là, mais il n'a pas dit il faut le faire. Hein. C'est moi qui suis assez idiot pour le faire depuis des années. Ce qu'il fait. Parce que j'ai aussi lu Listing et je me suis aperçu que Listing il se cassait la tête pour arriver à voir comment est-ce qu'on peut savoir que ces quatre objets-là, qui sont les quatre nœuds qui sont donnés par Lacan, but en blanc, la première leçon, il en parle même pas, il est mis au tableau, il est tellement découragé, c'est tellement long de rentrer dans la finesse de ces conneries. Parce que c'est très con, hein, c'est très bête, mais c'est très. Ça demande du temps, de la patience, des bons amis, du soutien, de la confiance. Alors évidemment, vous voyez, c'est transférentiel. Mais ça fait des effets. Bon. Alors voilà, entre là et là, on a ajouté trois croisements, deux croisements ici, deux croisements là, trois à la place de un. C'est ce qu'on a fait dans le Borroméen entre le trèfle et le Lacan. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, on change le rapport du nombre de zones vides et du nombre de zones pleines dans mon algorithme. Donc du coup, mon algorithme, il fait voir que le trèfle devient un Lacan, parce qu'il faut le retourner pour le nommer. Tout ça sont des choses qui vont avoir leur importance. Ça, c'est pas un Lacan, ça c'est un trèfle. Façon Lacan. Est-ce que ça, c'est un Lacan? Pourquoi? Parce que j'ai proposé une contrainte. La contrainte, c'est de dire, pour nommer l'objet, il faut compter le nombre de vides et le nombre de pleins. Hein, c'est comme ça, regardez. Vous voyez, le nombre de vides et le nombre de pleins. Ça, c'est les pleins. Si ça, c'est les pleins, les autres sont les vides. Il y a une dualité, toujours, à cause du théorème de Jordan. Il y a une parfaite dualité. Bon. Il y a toujours un binaire de zones. Il y a des pleins, vous voyez comment logique, le vrai et le faux. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de différence. Il va y en avoir. On va introduire la différence de l'énonciation, pof, avec les coloriages, avec les couleurs et la coupure. Mais vous voyez qu'ici, c'est binaire. Et bien là, il y a 1, 2, 3, 4 pleins et 1, 2, 3 vides. La proposition que j'ai faite, c'est que ça permet de définir la surface d'entente d'un objet alterné. La surface d'entente d'un objet alterné, c'est la surface qui présente, qui se trouve du côté où l'objet il a le plus petit nombre de vides et le plus grand nombre de pleins. Si vous retournez ça par dualité, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 vides et 3 pleins. Alors ce ne sera pas. Ça, c'est pas un Lacan, ça, c'est pas un trèfle, c'est un Lacan. Alors que celui-là, c'est pas un Lacan, c'est un trèfle. C'est des questions de définition. d'accord avec vous, je suis tout à fait d'accord avec Freud, qu'on ne va pas se pour une définition, c'est pas une question de terminologie. Mais c'est important quand même de voir la fonction de ça dans l'écriture ensuite des démonstrations. Et pour finir, je vous montre le passage de celui-là à celui-là. Alors, eh ben, c'est le même passage qu'il y a entre celui-là et celui-là. Regardez. Et si ces trois maintenant que j'ai ajouté au trèfle, je les fais tourner d'un quart de tour, regardez, au lieu de les mettre comme ça, je vais les mettre comme ça. Je leur fais faire un quart de tour aux trois du Lacan. Et bien, si j'ajoute les deux du Lacan qui sont en plus, qui sont là, regardez, qu'est-ce que ça fait maintenant? Ça fait le dual d'un trèfle, du 5 trèfle. Le 5 trèfle, c'est un quart de tour dans le Lacan, et là, c'est le dual. Là, j'ai fait les choses en dual. C'est-à-dire que si je fais un quart de tour de ces trois-là dans ce dessin, j'obtiens ça qui est dual de ça. Ça, c'est dual. Celui-là, vous pouvez dessiner comme ça si vous retournez un arc. Bon, ça peut vous paraître encore un peu difficile. Ça veut dire qu'il va falloir voir. C'est assez difficile de découvrir comment lire, comment voir ces choses-là. Ça veut dire, c'est pas des choses à percevoir, ce sont des choses à lire. Ça veut dire qu'il faut fabriquer un discours, une langue pour parler de ça. Moi, ce que je fais, c'est un apprentissage de la lecture des nœuds, mais c'est de l'alphabétisation. J'essaye de vous apprendre une langue qui n'existe pas. Toute la littérature sur ces trucs-là, elle est en anglais. Et l'anglais, hein, c'est pas terrible. Ça s'effondre un peu du côté... C'est pas du Shakespeare. La littérature sur les nœuds, c'est en anglais. C'est pour ça que je regarde un peu comment c'est dit en anglais. Les surfaces d'antan, ils appellent la spelling surface. Vous voyez, je respecte le signifiant, je prends spelling surface. Je cherche en français qu'est-ce que ça veut dire. Spelling surface, c'est les surfaces étendues. Et bien, je me dis, tiens, en voile, quand le bateau, le vent change, la voile, on dit que le bateau, il empanne à la voile, vous voyez. Empanné, c'est quand la voile, elle passe brutalement d'un côté à l'autre. Et on parlait de l'empan. Alors, on dit, ah oui, mais l'empan, c'est aussi une mesure. C'était la mesure qui va être là. Alors, vous euclidienisez la topologie. Mais non, moi, je m'occupe du signifiant span, et empan, c'est une question d'oreille. Vous voyez. Et l'empan, ce n'est pas seulement la mesure ancienne qui quand on n'utilisait pas le mètre étalon, c'est moderne. L'empan, c'est aussi dans le voile, c'est le fait d'empanner. C'est-à-dire qu'on sait, vous voyez, c'est un processus de génération, d'engendrement. Le hauban, là, quand le bateau empanne, le bord de la voile, il engendre une surface de tension. Hein? Et comment j'ai demandé aux Espagnols comment traduire ça, alors ils m'ont dit, ils ont entendu que je parlais. De la tension subjective, et comme j'ai parlé de la bulle de savon, et de, vous savez, pour à propos de la pulsion, puisque la tension parle du terme de stock. Et pour moi, ce qui m'importe, c'est qu'il y a des petites lettres, comme je l'ai montré, qui déterminent ces surfaces dans les zones. C'est de l'écriture, c'est la manière dont le nœud peut s'écrire, dont on peut écrire dans le nœud, comment le corps écrit. C'est ça la pulsion, comment il écrit, comment il déforme, avec des lettres ou des quasi-lettres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont proposé ils ont commencé par traduire les surfaces d'enfants comme surface de tension, superficie de tension en espagnol. Alors, j'ai discuté avec des marins espagnols. Eh bien, ils ont un mot pour dire surface d'enfants. Ça s'appelle des surfaces de panéo. C'est assez pour panéo, parce que vous voyez, c'est aussi quelque chose qui parcourt. Hein. C'est comme une sorte de panoramique. Quoi. Vous voyez, c'est le parcours. Alors j'ai proposé de les appeler surface de panéo en espagnol. Et on garde dans le panéo, on a encore le pan, vous voyez. Il faut quand même un peu s'amuser. Donc, et bien vous voyez que ces surfaces, elles aident à découvrir la lecture, parce que grâce aux surfaces, on voit peut-être mieux les changements. Sans les surfaces, c'est plus difficile de voir ça. Mais quand même, maintenant, ça vous apparaît bien qu'entre la chaîne borroméenne qui va donner le Lacan et la chaîne borroméenne qui va donner le 5 trèfle, eh bien, il y a un quart de tour. Et ça, ce quart de tour, ça correspond à un mouvement de plus. Mais c'est pas, ça, c'est plus borroméen. Ça, c'est borroméen, ça l'est plus. Parce que ce quart de tour, c'est un nœud whitehead qu'on a introduit là-dedans. C'est pour ça que dans mon texte, j'appelle ça B plus W, parce que les whitehead viennent jouer un rôle là-dedans. Alors, je vous montre tout de suite pourquoi. Je vais vous montrer la première figure pour conclure. Ça va vous donner comme ça quelque chose à mâcher. Il n'y a plus de tampon qui est effacé ici, c'est dommage. Bon, je suis quand même effacé. Bon, je vais vous montrer ici comment on fait faire un quart de tour à trois croisements. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Regardez comme c'est joli. Mes croisements qui sont comme ça. Vous voyez, j'ai trois croisements comme ça. Faites bien attention que ce qui importe, ce qui est topologique, c'est que les bouts là, ils ne bougent pas. Alors moi, j'ai inventé grâce à Terrasson un truc qui s'appelle. Ça s'appelle ça le poinçon, justement, puisqu'il s'agit du poinçon du Chantal. Hein, c'est le quart de tour, comme Lacan fait un quart de tour avec son schéma dans la lecture de Sade. Regardez comment on fait faire un quart de tour. Faire un quart de tour, ça veut dire que si le point A, le point B, le point C et le point D sont là, à la fin, ils ne doivent pas avoir bougé. Hein. Eux, ils sont toujours au même endroit. A, B, C, D. Voilà, je peux mettre mon rond bleu. Comment je fais faire un quart de tour à une portion d'un nœud? Regardez, le quart de tour, c'est que je dois arriver à quelque chose qui va être comme ça. Et ça doit avoir fait vraiment un quart de tour. Hein? C'est pas un demi-tour, c'est un quart de tour. Hop! Hop! Bon. Regardez comme c'est joli l'endroit où je peux vous emmener. Je vais faire une boucle ici. Je vais faire une boucle comme ça, regardez. Depuis A, ici, ça passe en dessous. Là, ça passe au-dessus. Donc, je fais passer sous une boucle. Je crée un fiscal ici. Voilà. Je crée un fiscal et j'ai mes points qui sont marqués A, B, C, D. Bon. Vous voyez ? En faisant une boucle, hein, c'est un mouvement de Rollermeister, ça ne change rien au truc. Vous faites une boucle sur le fil. Okay. Ici, vous avez un triskel. Et vous voyez ce qui me fait dire que c'est Whitehead et que ce n'est pas Brownien ? C'est un triskel, mais les trois éléments de corps qui passent autour de ce triskel, il y en a deux qui appartiennent au même rond. Donc ça se fait dans une chaîne à deux. C'est-à-dire, ça se fait dans une chaîne qui est comme ça. C'est-à-dire que ça a à voir quelque chose avec ça, avec ce qu'on appelle la chaîne de Whitehead. C'est pour ça que ça, j'appelle ça double deux. Maintenant, il parle du fantasme à propos de ça. Il dit que c'est la même relation. C'est la même relation que A et S barré dans le S barré pour son de A. Ça mériterait des réflexions, hein. Pas d'aller trop vite. C'est Porges qui l'a appelé le nœud du fantasme. Moi, je lui dis non, il ne faut pas aller trop vite, c'est pas le nœud du fantasme. Mais ce que dit Lacan, c'est que la relation dans la chaîne de Whitehead, c'est entre le un des ronds et l'autre rond, c'est la même relation qu'entretiennent les deux termes dans la formule du fantasme. Bon. Et il faut le montrer à d'autres endroits pour pouvoir commencer à pouvoir commenter ça bien, pour pouvoir commencer à le préciser. Je fais le mouvement nœud. Le mouvement nœud, il est comme ça. Non, le fil qui passe là, il va passer dans cette boucle ici. Là où je mets une petite assiette. Ce fil, je vais le faire passer au-dessus du croisement, comme ça. Voilà, ça c'est le mouvement nœud. Là j'ai la boucle, le A il est là. Le fil qui passe ici, il passe en dessous, parce qu'ici, il y a D. Ici, il y a D. Et le fil où j'ai mis la boucle, c'est comme ça. Voilà, il vient se rejoindre là, et là, il y a C. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le fil qui passe en dessous, je l'ai fait passer au-dessus du croisement qui est là. Maintenant, l'astérix, elle est dans le triskel. Ça, c'est le mouvement de... C'est un mouvement discontinu, hein, on est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait ça? Je vous le montre là. Regardez, c'est le moment le plus difficile de la transformation. Le fil qui part de B maintenant, il passe deux fois au-dessus, parce qu'il a été dégagé là par le mouvement nœud. Il passe deux fois au-dessus, donc je peux le faire basculer par-dessus. Vous voyez, je vais garder le A comme ça. J'ai ici, le B il va venir ici, parce que là il passe en dessous, et il passe comme ça, le B. Et maintenant je le fais basculer comme ça pour venir ici. Qu'est-ce que ça fait? A, B, C, D. Vous voyez, le fil qui est là, il passe, hop, au-dessus. Je le fais passer ici. Est-ce que tout le monde le voit? Le fil qui passe ici deux fois au-dessus et une fois en dessous, il ne peut pas entièrement en faire qu'un croisement, il ne peut pas se dégager complètement, mais il peut passer au-dessus en passant une seule fois au-dessus ici. Hop. Et ça, qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous dessine ici en tirant dessus un peu. Regardez, si je tire dessus, ça fait quelque chose qui est... Ça, je peux lui faire faire le fameux quart de tour. Vous voyez, ça fait quelque chose qui vient comme ça. Hop. Et ça, c'est D. Ça, c'est B. Ça, c'est C. Et ça, c'est A. Donc, j'ai obtenu quoi? J'ai obtenu ça. Je suis passé de là à là. En faisant quoi? En ajoutant un nœud ou en retranchant un nœud, je ne sais pas. Mais il y a un nœud de différence. Il y a un mouvement nœud ici. Ici, il se passe quelque chose qui est discontinu dans le monde physique. Ça définit un lieu du nœud où les mouvements nœuds, il y a la théorie des nœuds, c'est la théorie des nœuds dans un monde où on pourrait faire le mouvement nœud. Et moi, je pense que ce monde, c'est un monde textuel. On arrivera à faire des modèles dans des ordinateurs pour le rendre visible. Mais c'est quelque chose qui a un trait à la lettre.
Il y a des biologistes américains qui ont découvert ça dans la molécule ADN.
Mais Charlie, ils ont découvert, de toute façon, il y a des textes de biologistes qui, effectivement, avec les molécules ADN, ont affaire à des nœuds, premièrement. Deuxièmement, il y a des nœuds qui se défont avec les nœuds d'ADN, les chaînes ADN. Mais ce n'est pas exactement ça, ce n'est pas des mouvements nœuds, c'est des homotopies. Mais on n'est pas loin, je suis d'accord, on n'est pas loin. Bon, et Jean-Michel Mack et Pierre Roth, à Strasbourg, ils ont montré qu'en optique, avec un miroir concave, on obtient aussi des phénomènes optiques, avec des images optiques, miroirs, des nœuds, du même ordre. Bon, donc il y a des modèles physiques dispersés. C'est éclaté comme modèle physique. Il n'y a pas un modèle physique, il y a des petits bouts de cette topologie. Moi, ce que je fais, c'est une géométrie. Ça veut dire que je tiens une réflexion qui s'écrit et qui est intégralement cohérente du point de vue logique. Bien qu'on y découvre des lois logiques surprenantes. C'est clair? Pour préciser, n'est-ce pas? Moi, je n'ai pas besoin du modèle physique, mais je sais qu'il existe des morceaux. C'est pour ça que quand il dit l'objet A, on ne l'a jamais en entier. Lisez ça dans la troisième. Ils sont marrants quand même, ces Indiens, qui disent toujours, ils disent tous la même chose, là, qu'il faut faire remonter le sperme. La substance de la dame, au lieu de gâcher son sperme, il faut faire remonter la substance de la dame le long de la colonne vertébrale, et ça doit venir jusque-là, là, dans l'occiput, dans le cervelet, tout ça. Là, quand ils sont un peu gonflés, parce que c'est marrant, ils disent tous la même chose. Bon, ils sont passés le mot. Parce que nous, l'objet A, au contraire, on n'en a que des bouts. Bon, jamais. Regardez l'homme au loup, l'objet A, comment il le rencontre. Dans un rêve, j'ai les yeux éclatés. Il y a 7 loups, ça fait 14 petits bouts qui brillent. Regardez, tenez, à propos de Félicien Rops, si vous lisez la Parivade d'Janssen, vous verrez que Freud félicite que Rops, Félicien Rops, le peintre de Namur, qui a son musée à Namur, il a dessiné le refoulement. C'est pour ça que moi j'ai amené la Parivade d'Janssen, tenez, à propos de, si on continue après sur la littérature, pour revenir à Joyce, regardez, vous connaissez ça c'est le Félicien Rops. C'est un mec dans son musée à Namur, allez dans le musée de Rops à Namur. Vous voyez, c'est une dame qui est à la place du Christ qui tombe, et puis il y a Saint-Antoine, la tentation de Saint-Antoine, il se tient la tête. Et Freud, il dit, là il montre que le saint, hein, sa passion pour le Christ, c'est ça. Derrière, il y a ça. Vous voyez, Freud, il a peint le refoulement. Et Rops, il avait fait installer ça chez un bourgeois de Bruxelles, qui lui avait acheté, il avait peint pour quelqu'un, comme la création, l'origine du monde de Lacan. Hein. Parce que Lacan, lui, vous voyez la différence entre Freud et Lacan, regardez, vous l'avez là, paf. Vous voyez, ça c'est le refoulement, et ça c'est la castration. Et lui, il a fait comme Rops, Lacan avec son beau-frère en maçon, il a fabriqué un autre tableau écran pour cacher celui-là. Mais le tableau écran de Masson, il est au musée, on le voit au musée de d'Orsay, puisqu'ils ont la famille, l'a donné au musée d'Orsay. On voit toutes les courbes du corps de la dame, là, dont Masson, André Masson, a fait un paysage, des montagnes avec des petits. Bon. Vous voyez? Et ça, c'est Rops. Mais si vous allez au musée de Rops, vous allez voir comme lui, il a passé sa vie, le Rops, à dessiner des braquemars, des phallus, à l'encre. Avec une plume, des machins avec des ailes. Et puis il y a toujours des petits angelots. Et les angelots, c'est comme quoi le phallus, c'est pas l'objet, vous voyez, c'est l'objet, c'est pas le phallus. Parce que les angelots, il y en a plein. Ils sont, c'est démultiplié, les angelots, ils sont éclatés. L'objet A, on ne peut pas l'attraper. C'est comme, c'est pire qu'une savonnette. Si vous croyez l'attraper, vous voyez, au moment où vous voyez une merde sur le coin du trottoir, parce que c'est votre objet, là, momentanément, comme dit Safon, vous pouvez vous épanouir. Il raconte ça dans les études sur le dit. Hein. Le mec, il rencontre une merde de chien, pof, description subjective. Ben justement, parce qu'on ne peut pas l'attraper. Donc, Robs, il fait des braquemars, c'est l'un, et puis du multiple. Vous connaissez les peintures de Rob, il y a pornographie, ça s'appelle pornographia, c'est une grosse dame nue avec qui tient en laisse un cochon, et il y a des petits anges. Regardez les peintures baroques, les petits anges, ils sont partout dans les peintures baroques. Les personnages sont dans l'air, ils sont sur des nuages, dans le ciel, hein, et puis il y a des petits angelots. C'est l'objet A. Bon, donc, c'est des trucs à apprendre à lire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça, je suis d'accord. Vous voulez le voir?
Ah oui.
Je le fais passer, parce que là, on va arrêter. Faites le passer. L'autre aussi, d'ailleurs, vous pouvez les comparer. Ben voilà, il y a bien une différence entre Freud et Lacan. Moi, je vous dis que Freud, c'est quelqu'un qui écrit, et Lacan, c'est quelqu'un qui parle. Mais que une langue parlée et une langue écrite, c'est la même langue. Le français parlé et le français écrit, c'est deux langues différentes, et c'est on la reconnaît comme la même langue. C'est un type d'unité qui est entre le 1 et le multiple. Voilà, on s'arrête.